Entonnoir, deuxième partie d'émission, et comme expliqué dans le sommaire précédent, je vais d'abord vous parler d'un roman que j'ai beaucoup apprécié, et puis ensuite on aura le plaisir de recevoir notre grand spécialiste de la BD Polar, notre homme qui bulle, comme on dit, Frédéric Prieux. Donc, le livre dont je vais vous parler, il s'appelle « Du sable dans la bouche ». C'est un roman de Hervé Lecor et il vient de paraître aux éditions Rivage Noir chez Payot Rivage. C'est un roman, c'est pas une édition puisque c'est en fait une réédition. Mais d'abord, le premier est introuvable depuis des années. Et puis, comme le dit la quatrième de couverture, nous avons une nouvelle édition entièrement révisée et révisée par l'auteur lui-même, bien évidemment. Hervé Lecor, pour notre part, on l'avait découvert avec un superbe roman qui s'appelle toujours L'homme aux lèvres de saphir. C'est un roman qui parut il y a 12 ans, déjà chez Rivage Noir. Roman qui nous avait enthousiasmé, comme les suivants d'ailleurs. Le dernier, Après la guerre, c'est juste dans la grande collection Rivage Thriller, c'est un petit chef-d'œuvre. C'est d'ailleurs un roman qui est multi-récompensé. C'est pourquoi je me suis précipitée sur ce texte. Un texte court, 170 pages à peu près. C'est un écrit qui date de 1994. Et comme je l'ai dit, il a été révisé par Hervé Lecor. Le récit, lui, il se situe dans les années 90. Et au début, Mathilde sort de 4 ans de prison. Pourquoi ? Nous le saurons à la fin du roman. Car comme l'écrit Hervé Lecor, tout peut alors commencer et finir en même temps. Flashback, un commando d'autonomistes fait sauter un hôtel. Intervention de la police, coup de feu, des blessés, des morts. Emilia Ochoa, qui fait partie du commando, emmène Mickaël, sérieusement blessé, dans une planque. Et demande à Pierre, ancien militant, qui a abandonné cette lutte, de les aider. Pierre ne va pas hésiter longtemps et Pierre va accepter. Ils vont aller ensemble au bout de la nuit. Ils tenteront d'échapper à la police, mais aussi à un bien mystérieux tueur que Hervé Lecor a un petit peu facétieusement prénommé Angel, l'ange exterminateur. Les flics sont aussi prêts à tout pour établir le sacro-saint ordre public. Ça, c'est un discours qu'on entend régulièrement. Et va donc demander à la femme de Pierre de les aider. Cette femme s'appelle Mathilde. Vous commencez à comprendre. Mais je n'en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir l'histoire. Dans ce roman, Hervé Lecor montre une maîtrise de la narration tout à fait surprenante. Des scènes hyper violentes, hyper réalistes, alternent avec des scènes plus introspectives, beaucoup plus lentes. En fait, il déforme le temps. Il brutalise quelques secondes pour attirer les instants suivants, en laissant passer aussi de purs moments de poésie. Dans ce pays envahi par la neige, qui affadit tout. Alors, on est dans le sud-ouest et il neige beaucoup à ce moment-là. La glace arrive, les routes verglacées, tout participe à la fuite de Pierre, d'Emilia, de Mickaël et à la poursuite des flics et d'Angel. La neige va exacerber en fait la glace va être une sorte de miroir qui va exacerber les sentiments et des sens qui c'est dans ces sentiments ça va être évidemment surtout la haine. On a parlé de commando autonomiste, on a parlé de lutte armée. Cela pourrait être donc un roman engagé, militant. Eh bien, pas du tout. Hervé Lecor s'en garde bien. Comme il le dit dans une récente interview, il préfère le billard à trois bandes, raconter plutôt qu'asséner, dire plutôt que hurler. Comme il a raison, sa morale, sa vision transparaît malgré tout dans la fiction à tous les moments et dans tous les personnages. Et pour terminer cette chronique, je vais laisser le mot de la fin à Jean-Patrick Manchette, grand auteur de polar disparu malheureusement depuis maintenant plus de 20 ans, qui faisait lui aussi des chroniques bien plus pertinentes, je pense. Mais voilà une phrase qu'il glissait dans une de ses chroniques. Le polar, c'est toujours le roman d'intervention sociale très violent. Nul doute que s'il avait pu lire le roman d'Hervé Le Cor, cet écrivain bordelais, eh bien, il en eut parlé dans ses chroniques parce que je pense que cette définition convient parfaitement au roman d'Hervé Le Cor. Donc, je vais redire le titre, Du sable dans la bouche. C'est dans la collection Rivage Noir. C'est en plus un roman, j'insiste, c'est collection de poche. Hein. Le prix en est de 6,90 €. Le titre, Du sable dans la bouche, et ce merveilleux écrivain français qu'est Hervé Le Cor. J'ai un petit peu d'avance, autre merveilleux écrivain français. Il s'appelle Marcus Malt et son roman Le Garçon, publié aux éditions Zulma, a obtenu il y a très très peu de temps le prix Fémina. C'est une reconnaissance magnifique pour celui qui est un des plus grands stylistes du roman actuel en France. Voilà, il est étiqueté, ça existe encore, auteur de romans noirs, et Le Garçon, ce roman est un superbe roman noir, mais heureusement les jurés de ce prix ont pu voir en dehors des cases dans lesquelles on range certains auteurs et certaines collections. Voilà, donc place à un petit peu de musique. On va donc écouter, je prends mon plus bel accent anglais, The Mowings. C'est pour faire plaisir à Frédéric Prieux, notre BDiste favori. Pourquoi ? Parce que le morceau qu'on va entendre, Friendship, eh bien, c'est un petit peu du Celtic Punk. Et puis, pour lui faire quand même un petit pied de nez, eh bien, lui, on va l'avoir, il est dans l'Ouest. On lui téléphone, il est à Lamballe. Et ce groupe, The Mowings, eh ben, eux, ils sont de l'autre côté, dans l'Est, à l'opposé, puisqu'ils nous viennent d'Alsace. Donc, on écoute The Mowings et Friendship. C'était donc les Mowings, un groupe de Celtic Punk spécialement choisi pour Frédéric Prieux. Frédéric, bonsoir.
Et bonsoir Corinne, super.
Voilà, est-ce que vous connaissez les Mowings?
Non, je connais Ramones, mais...
Voilà, non, mais nous on reste dans l'Hexagone, monsieur. Ils viennent d'Alsace, ça s'entend pas, hein.
Oui, very well, very good.
Very good. Donc, Frédéric, d'abord, on est ravis de vous retrouver. Vous nous manquiez un petit peu, là. C'est difficile de se retrouver. Donc, on est vraiment ravis de retrouver notre spécialiste en bulle.
Ouais.
Et je crois que je vais me taire parce que vous avez envie, je crois, de nous parler de 5 albums ce soir.
Oui. Alors, j'ai intérêt à faire ça. Oui, 5 d'un coup, 5 pour le prix d'un, parce que je vais vous parler de la sélection du 5e prix polar, prix SNCF du polar BD, dont le lancement a lieu il y a eu quoi, à moins d'un mois. Donc, Paris 1934, Massachusetts 1960, Sud de la France 1967, Kinshasa 1974, Baltimore 1988. On voyage avec les SNCF. Bon, je n'ai pas fait. Bon, je
oh, c'était
plus.
Mignon. Oh,
c'est trop facile. Bon, alors, donc 5 albums. Alors, le Paris de 1934, c'est celui d'Apache, d'Alex Inker aux éditions Sarbacane. Alors, dans celui-ci, on croise un trio de personnages assez étonnants, un Julot bien en chair et sa poule à ses cocottes, et leur chauffeur Eddie, qui tombe en panne de bagnole dans le quartier de la Bastille, juste en face d'un troquet tenu par un tenancier tatoué, ex-bagnard. Vous voyez un petit peu, c'est un peu chargé, mais c'est magnifique. C'est le quatrième personnage, ce barman, qui est en fait le personnage central de l'album, et tout va se passer dans son bar, qui est un petit peu oublié. Le bar et l'action va s'emballer assez vite, dès que le beau et gros Julot meurt un petit peu accidentellement. Donc, de la vengeance, des coups fourrés, des rebondissements.
Quelle bande annonce.
Oui,
magnifique.
Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Et c'est dans une ambiance, assez Carco et Simonin, parce que il y a un usage de l'argot assez judicieux, et les personnages ont des trognes, et voilà, c'est du polar avec des mauvais garçons, des filles gouailleuses, des petites frappes,
des même poules, des poules. Vous avez dit des poules? Il y a des petites poules.
Des poules assez cocottes, oui. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment un bel album chez Sarbacane. En plus, avec un bel emballage, si je puis dire. C'est un album au format à l'italienne. C'est en bichromie, c'est très élégant. Voilà. Donc, premier album, je voulais leur livre dans l'ordre chronologique.
Chronologique, oui, on a compris. Là, on était dans les années 60. On va y rester
30,
encore
30,
un
30,
peu.
34.
Pardon.
1930. Après, on va jusque dans les années 60.
C'est
et là,
ça, j'avais juste un petit peu d'avance. Là, on est dans les années 60.
Après, on va dans le Massachusetts des années 60 et plus précisément à la ville de Watertown, où là, on croise le dénommé Philippe Whiting, qui bosse pour un cabinet d'assurance et qui, tous les matins, passe dans la boulangerie se prendre son petit muffin qui est servi par Maggie Leger, l'employée. Et tous les matins, il lui dit « à demain ». Et un jour, elle lui dit « non, demain, je ne serai plus là ». Et effectivement, le lendemain, la jeune femme n'est plus là et son patron non plus, puisqu'il est mort, écrasé par une lourde étagère de sa cuisine, et que Maggie disparaît et on ne la revoit plus jamais à Watertown.
Et quel suspense.
Voilà, n'est-ce pas ? Alors, le suspense grandit quand 2 ans plus tard, l'agent d'assurance retrouve Maggie, la femme qui croit être Maggie, mais qui se fait appeler Marie, qui est antiquaire, et qui lui dit qu'elle n'a jamais vécu à Watertown. Voilà. Donc lui, il ne comprend pas, il est sûr que c'est elle, et là, il se lance dans une enquête. Alors, c'est très étrange, c'est plutôt une quête qu'une enquête, et comme dit, parce que c'est pas son métier au jeune homme, là, bon, au jeune homme, au quinca, voilà, au jeune, mais quand même quinca.
Mais c'est jeune,
mais oui, nous sommes d'accord. Et donc, en fait, il patine un peu, et Göting, ça illustre bien ce que, pour le fait de patiner, mais Göting, c'est une illustration de ce que dit du Göting du polar, c'est-à-dire, il dit, je préfère le terme roman noir à polar, ce qui m'intéresse, c'est le côté tragique, plus que l'aspect criminel avec ses flics et ses voyous, et j'emprunte plutôt le côté enquête, qui est une forme de narration intéressante, mais dans ce livre, c'est moins le moyen d'élucider un mystère que de raconter la psychologie de celui qui l'amène. Alors, roman psychologique, quel lapsus, BD psychologique.
Oui, c'est exactement, mais comment on dessine la psychologie d'un personnage?
À coup de gouache et de pinceau avec une ambiance années 60 vintage, on se croirait dans un... Voilà, c'est comme ça que ça se dit.
Il doit y avoir un très beau décor de diner américain.
Oh oui, 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 c'est pas mal. Voilà. Ouais. Donc, hop, Göting, Watertown. Je file, je continue. Après, nous sommes en France.
On est dans les temps.
Oui. Dans les temps, c'est 1900. Ça fait un peu spilos, mais c'est pas grave. Dans le sud de la France, en 1967. Et là, c'est l'été diabolique. Alors là, je vous lis le résumé d'Argo, parce que c'est pas possible de résumer sinon. Alors, un agent secret sorti de nulle part, un accident dramatique, une fille troublante et la disparition de son père, le tout en deux jours pour Antoine l'été. 15 ans, l'été, pour Antoine, 15 ans, l'été 67 sera celui de toutes les découvertes. Après Souvenir de l'Empire de l'Atome, ça c'est les auteurs qui ont réalisé cet album, un nouveau cocktail détonnant et jouissif de Smolderen et Cléris, un scénario particulièrement haletant entre espionnage et littérature, passé au mixeur graphique de Cléris, qui mélange les références des fous métiers à David Hockney. Bon, ça fait un peu joyeux mélange, mais c'est une bande dessinée absolument incroyable graphiquement. Parce qu'on a des couleurs, on se croirait dans le pop art, on croise Sputnik, du Warhol, du Guy Pellart, et voilà. Et c'est une histoire mi-romantique, mi-d'espionnage. C'est hyper étonnant, la construction l'est aussi, parce que pendant 100 pages, c'est un flashback sur ce qui s'est passé avec ce jeune ado dans l'été 67. Et après, pouf, on se retrouve maintenant avec l'ado qui est devenu un adulte, qui a fait un livre de tout ça et qui va peut-être enfin comprendre ce qui lui est arrivé au cours de ce fameux été 67. Et l'été diabolique, c'est une référence directe à Diabolique, les personnages des Fumetti, vous voyez, cher Colin et Jacques, c'est Fumettinerie, le personnage à la Fantomas qui était créé par des Italiens, et c'est à la fois, donc il n'est jamais là, bien sûr, mais il est en toile de fond, c'est étonnant, vraiment étonnant, et c'est très 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 beau, vous pouvez le prendre n'importe où, vous l'ouvrez, ça flash dur, et ça reste très... C'est une bande dessinée, c'est pas un livre illustré, parce que parfois les illustrateurs peinent à mettre en case leur magnifique dessin. C'est-à-dire pas qu'ils peinent à mettre en case, c'est-à-dire que ça manque de dynamisme. Mais là, pas du tout. Vraiment un magnifique album qui est paru en début d'année, donc c'est chez Dargo, parce que je parle vite, et c'est l'été diabolique. Voilà. Alors après,
on continue dans le temps, oui. Donc quatrième BD sélectionné.
Voilà. Et nous sommes à Kinshasa en 1974. Alors, ça va peut-être vous parler, chers amis.
Les lignes SNCF vont de plus en plus loin.
Oui. Alors là, l'album, c'est Chaos debout à Kinshasa, de Barly Barouti au dessin de Thierry Belfro au scénario. C'est chez Glénat. Et ça nous emmène tout bêtement au fameux combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. En fait, on suit plutôt un petit voyou de Harlem qui navigue de combine en combine pour rembourser une dette et gagne un voyage là-bas. Donc, pour le fameux combat Foreman Ali. Mais en fait, il va se retrouver en plein Zaïre qui est en pleine guerre froide et puis en plein Mobutu, quoi. Donc, avec la corruption et puis c'est un peu le carnet d'espions, vous voyez, OSS 117. Hein. Sauf que c'est Kinshasa et c'est pas une belle
humoristique.
Voilà. Et alors c'est noir, effectivement on croise tout un paquet de personnages ou en couleur, oui c'est noir, mais le combat ce n'est pas un livre sur la boxe, c'est plutôt sur ce qui se tisse dans les coulisses du pouvoir et comment c'est en fait une histoire géosportivo-politique avais-je noté, et assez solidement documentée, mais c'est vraiment graphiquement on dirait un petit peu, ça fait penser à Herman, vous voyez, de l'auteur de Jérémia. C'est un album qui lui aussi se lâche pas avant la limite, si je puis me permettre un mauvais jeu de mots, puisqu'on est dans le domaine de la boxe. Vous pouvez lire ça même si la boxe vous laisse un petit peu indifférent. Et si elle vous plaît, ça vous plaira encore plus. Voilà.
Alors là, on va être complètement KO. On va passer, on a une minute pour parler du
dernier. Le dernier, c'est le Baltimore de 1988. C'est celui de Philip Squarzoni dans l'excellent Homicide, qui est magnifiquement une adaptation de David Simon sur la police, du livre de David Simon sur la police de Baltimore. Vous savez, c'était l'auteur de Surécoute.
Surécoute, on the wire.
Pour faire très 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 simple, c'est Surécoute en bande dessinée, mais c'est 10 fois différent. C'est, on suit la brigade criminelle de Baltimore dans leur quotidien sordide et terrible. Et c'est une BD documentaire, grande première pour le prix Polar. Et prix SNCF du Polar, voilà. Vous pouvez tout retrouver sur le site de la SNCF si vous voulez voter, parce qu'on vote pour ces 5.
C'est ce que j'allais vous dire, on peut voter.
Comme pour les romans et comme pour les cours.
Et j'espère qu'on les retrouve bientôt sur votre blog à vous.
Oui, ils y sont pour une fois. Ils manquent juste Baltimore, homicide, mais ils sont tous excellents, vraiment.
Voilà, donc on vous retrouve sur bdpolar.blogspot.fr. Voilà, j'ai donné l'adresse en entier. Frédéric Prieux, merci beaucoup et je vous conseille un grand verre d'eau. Merci beaucoup.
Et je serai plus calme.
Bonne soirée.
À bientôt les amis.
À bientôt.
Salut.
Et je vais m'en souhaiter aussi une bonne soirée à tous nos auditeurs, chacun dans son coin avec un bon bouquin. À bientôt.